In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. Tout de suite, la Minute Info avec Simon Guilla.
Bonsoir à Christine et bonsoir à tous. L'amiral Philippe de Gaulle est décédé à l'âge de 102 ans. Le fils du général de Gaulle s'est éteint à l'Institution Nationale des Invalides où il résidait depuis 2 ans. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'était engagé dans les forces navales françaises libres avant de devenir sénateur de Paris entre 1986 et 2004. Un hommage national lui sera rendu aux Invalides la semaine prochaine. Un nouvel affrontement entre bandes rivales qui tourne au drame. Un jeune homme de 18 ans a été tué hier dans le 18e arrondissement de Paris en fin d'après-midi. Un suspect né en 2006 a immédiatement été interpellé sur place par les forces de l'ordre. Et puis la SNCF ouvre... Pardonnez-moi. La SNCF ouvre sa billetterie en vue des Jeux Olympiques. Désormais, vous pouvez réserver vos trains. Tous les TGV Inouï Intercité et Ouigo du 6 juillet au 11 septembre prochain, Christine.
Merci Simon Guilin, un petit TGV pour aller à Pointe-à-Pitre, c'est pas mal ça. Au sommaire ce soir, c'est le sujet le plus discuté sur les réseaux sociaux en ce moment. Alors que l'ARCOM remet en jeu les fréquences de 15 chaînes de la TNT, Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, donc de CNews, a été auditionné cet après-midi par la commission d'enquête parlementaire créée à la demande du groupe LFI. Il est le seul grand patron de médias à être auditionné et certains y voient un acharnement contre des chaînes qui fonctionnent comme CNews et C8. Que comprendre de cette audition contre un groupe qui est reconnu pour son succès même à l'international? Tour de table, analyse des mousquetaires. Alors que Rachida Dati dénonce des attaques par pur racisme contre Aya Nakamura, la presse étrangère voit éclater les profondes divisions de la société française sur les questions raciales et culturelles et préfère même souligner la condamnation pour violence conjugale de la chanteuse. Quelle différence avec les autres polémiques, Jesse Norman et le drapeau français, Barbara Hendricks pour l'entrée de Simone Veil au Panthéon ou encore Serge Gainsbourg et la Marseillaise revisitée? Pourquoi cette polémique est-elle en train de devenir un sujet politique? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Nous parlerons également du niveau de culture et du niveau de français de notre classe politique. Si hier, une ministre a fait parler d'elle en confondant opprobre et opprobre à l'Assemblée nationale, de façon générale, les députés, parlementaires sont souvent critiqués, quel que soit leur bord politique, pour leur français. Ne sont-ils pas tous finalement à l'image de la société? Comment expliquer cet effondrement du niveau des politiques en général? L'analyse de Guillaume Bigot. Un hommage national se tiendra la semaine prochaine aux Invalides en mémoire de l'amiral Philippe de Gaulle, décédé à 102 ans. Le fils du général est décédé cette nuit à 102 ans. Carrière militaire exemplaire, le président de la République Emmanuel Macron a salué un marin, amiral, sénateur qui ne manqua jamais le rendez-vous du courage et de l'honneur. Mais qui était cet homme pour la France? Le regard de Marc Menant. Le déclin de Sciences Po se voit-il enfin? Le patron démissionne, même sans plainte, pour violence conjugale, au moment où la polémique enfle sur cette mobilisation pro-palestinienne dans l'établissement. Emmanuel Macron dénonce des propos inqualifiables et intolérables tenus à Sciences Po. Les établissements universitaires sont autonomes, mais l'autonomie ne justifie pas le début d'un séparatisme, a ajouté le président de la République. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il va saisir la justice après cette action à Sciences Po. Comment en sommes-nous arrivés là, Charlotte Dornelas? Et puis alors que Marion Maréchal veut interdire la pub pour le halal, elle s'est attaquée au maire de Lyon qui a annoncé la suspension des travaux dans le quartier de la Guillotière le temps du Ramadan. Alors que la Fédération française de foot refuse de son côté, conformément au texte, une pause pour rompre le jeûne du Ramadan, pourquoi cette période de recueillement spirituel tourne-t-il souvent au rapport de force? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Une heure avec nos mousquetaires. En commentant des cryptes, on analyse et c'est maintenant. Bigot est avec nous ce soir. Comment allez-vous ?
Toujours très bien quand je suis avec vous.
Qui vous a fait ce joli nœud de cravate ?
Ah, ça... ça s'améliore, vous voyez que ça s'améliore.
Oui, je vois que ça s'améliore. Bon, en tout cas, il y a un d'entre vous ou une qui m'a invité au restaurant ce soir. Hashtag face à l'info, devinez qui c'est, je dirais à la fin. À la fin, qui c'est. En tout cas, je n'ai pas mangé depuis 2 jours juste pour...
Le chanceux.
Bon, alors, on a beaucoup de sujets ce soir. Hein. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. On va parler d'Aya Nakamura dans un instant. D'abord, le sujet numéro un sur les réseaux sociaux. Ce soir, je vous le disais en titre, l'audition de Vincent Bolloré, patron du groupe Canal+, alors que l'ARCOM remet en jeu les fréquences de 15 chaînes de la TNT. Il a été le seul à avoir été auditionné, possédant 7 chaînes, mais comme le groupe TF1 et comme beaucoup d'autres groupes. Et puis, c'est intéressant parce qu'on va commencer peut-être par un... Laurent Jacobelli, qui est un député qui a été présent à cette audition lors de cette commission d'enquête créée à la demande de LFI. Écoutez d'abord les propos de Laurent Jacobelli qui résume un petit peu l'ambiance, je pense.
Je dois dire, je suis un peu surpris par cette audition. J'ai plus l'impression d'être, je dois le dire, à un procès d'une personne. Vous. Et je ne suis pas forcément étonné quand je lis un certain nombre de déclarations, celle de monsieur le rapporteur par exemple. Il est temps de sanctionner Bolloré et ses lamentables marionnettes. Xénophobie et voyeurisme, c'est vous, hein, monsieur Bolloré, c'est la recette de la petite clique des Bolloré. Cyril Hanouna défend l'oligarque Bolloré. Bravo à Louis Boyard, donc mon collègue député, d'avoir dit la vérité sur l'argent sale de ce saccageur de l'Afrique. Mon collègue Boyard, ancien de salarié de Canal+, qui déclarait, lui, que le système Bolloré entraîne le racisme et l'islamophobie. Vous le savez comme moi, une chaîne de télévision, ce sont des programmes, des hommes et des femmes qui les animent, mais aussi une réputation.
On écoutera d'autres extraits dans un instant, mais quelle est votre réaction, Mathieu Bocoté, vous qui avez écouté cette audition cet après-midi, comme j'ai vu à un moment, il y avait 20 000. Hein,
j'ai l'impression que bien franchement, ce que dit le député ici, le sentiment par plusieurs ressentis, mais aussi par les gens de LFI. Les gens de LFI ont monté cette commission dans l'idée d'un face-à-face désiré avec ce qu'ils se représentent probablement comme une forme de Palpatine des médias pour ceux qui ont des références Star Wars. Donc dans leur esprit, c'était le grand duel. Le problème, puis on verra ça au fil de l'émission, mais moi ce qui m'a frappé, c'est, et puis je le dis, on est dans une position particulière parce que j'essaie de dire ça à distance, mais entre d'un côté un ton assez inquisitorial et de l'autre, une défense qui n'était pas hargneuse de la conception que Vincent Bolloré fait de ses entreprises. Il y avait un choc des tons, à tout le moins, quelles que soient les préférences des uns des autres, entre d'un côté une forme de sérénité, peut-être une verticalité, et de l'autre une agressivité qui était fière d'elle-même.
Une agressivité qui, j'ai l'impression, avait baissé un petit peu de niveau par rapport à...
Oui, ça je suis d'accord.
À la fois présidente Charlotte Dornelas.
Oui, présidente. Elle avait très clairement baissé de niveau, ça c'est sûr. Non mais en effet, sur la présentation qui est faite, moi à plusieurs reprises d'ailleurs, dans la première comme dans l'audition d'aujourd'hui, je me suis dit mais quel dommage que ces gens refusent de débattre en permanence. Ils ont apparemment envie de débattre. C'est-à-dire que je pense que c'est ça la confusion qu'il y a, c'est qu'il y a une interrogation sur la question de la direction des médias, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on attribue ou pas les fréquences. C'est des questions qui sont intelligentes et démocratiquement, elles sont accessibles à tout le monde. Ce sont des questions qui sont intéressantes. Et elles sont posées au milieu d'un tas de lancements, de débats contradictoires sur le fond des sujets. Et à la limite, ce qu'en pense Vincent Bolloré ou hier, tel ou tel dans la chaîne ne définit pas ce que nous sommes. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut rappeler à tout le monde, c'est que nous, chroniqueurs, je prends notre exemple. Moi, je n'ai jamais rencontré Vincent Bolloré de ma vie et il ne m'écrit pas mes chroniques le soir. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il faut le rappeler parce qu'on a l'impression qu'il dicte à tout le monde ce que tout le monde dit. D'abord, ça n'est pas le cas. Et par ailleurs, dans cette chaîne, il y a des contradictions entre les chroniqueurs, avec les gens qui travaillent dans la rédaction. Donc, il y a une infinité aussi de personnes qui sont derrière tout ça et je pense que c'est l'occasion quand même de le rappeler aussi.
On va passer quelques extraits pendant cette émission, tout au long de l'émission, tout en gardant nos chroniques. Oh, on a beaucoup de sujets. Votre réaction, Marc, maintenant oui. Vous avez travaillé avec lui au tout début à Direct 8.
Oui, à Direct 8.
Vous le connaissez personnellement, contrairement à
oui,
ensuite Guillaume Bigot.
Mais ce qui est extraordinaire, c'était l'adhésion de l'ensemble du personnel. Alors, on va dire, oh, le Fayot. D'abord, je fais ce que je veux, je ne suis pas Fayot. Je travaille là où je veux, j'ai toujours fait, c'est ma caractéristique, j'ai claqué des portes. Mais cet homme-là, aller voir les gens le matin, leur demander s'ils s'en sortaient bien, ils faisaient porter des croissants dans la régie et autres, et il y avait un humanisme que j'ai jamais ou rarement rencontré chez des patrons. Après, un jour, on m'appelle, parce que comme j'avais été avec lui pendant 3 ans, c'était au moment où on a fait un reportage sur lui sur la 2. On me dit, allô, alors vous avez travaillé avec Bolloré.
Et complément d'enquête.
Pardon ?
Complément d'enquête ?
Oui. Vous avez travaillé avec lui, vous l'avez quitté, vous avez été vidé. Je dis, non, non, je n'ai pas été vidé. Ben si, vous avez été vidé. Je dis, écoutez, si vous m'appelez, vous voulez que je vous parle de Bolloré, laissez-moi m'exprimer. Et je ne dirai pas de mal de lui, non pas parce que je... En plus, je ne suis plus dans le groupe, je n'ai rien à défendre, mais simplement parce que je vais vous raconter ce qui se passe. Bon, ben écoutez, on vous rappellera, etc. Et bien évidemment, on ne m'a jamais rappelé parce que je ne voulais pas être à charge. Pendant 10 minutes, ça a été le harcèlement tel qu'on a pu le voir tout à l'heure dans les extraits ou qu'on les verra. Alors parler avec une agressivité invraisemblable, il fallait que je sois vraiment délétère.
Votre regard, Guillaume Bigot.
Vous avez raison de noter qu'il y a quelque chose de l'agressivité qui est un peu retombé. Mais pour une raison simple, c'est que même si on est dans un combat politique, ce qui était évidemment le cas des députés LFI, par exemple, la vérité rend toujours un son assez particulier, en fait. Et finalement, ils ont probablement été surpris de voir qu'il y avait vraiment une ouverture, précisément, au débat, contrairement à leur fantasme. C'est toujours intéressant de sortir du fantasme et de se confronter à la réalité. Et je pense que c'est exactement ce que veut faire CNews. C'est-à-dire... on peut critiquer CNews, que CNews n'est pas exempt de tout reproche, etc., comme aucune entreprise. Mais la vérité, c'est qu'il y a une envie quand même de s'intéresser au réel et de se frotter au réel. Et moi, ce qui me paraît le plus choquant dans tout ce dispositif, bah non plus je ne suis pas un perdreau de l'année en politique, mais il y a quelque chose qui est gênant, c'est l'inversion accusatoire. C'est que précisément, ils ne veulent pas débattre. Et ils reprochent à la chaîne de ne pas débattre avec eux alors qu'ils ne viennent pas débattre. C'est ça qui est absolument fou. Et précisément, Charlotte a raison, il y avait quelque chose de l'ordre du débat qu'ils ne veulent pas faire, parce que s'ils faisaient ce débat, ils ne pourraient pas reprocher à la chaîne de ne pas débattre et de ne pas être ouverte.
On continuera dans un instant, on a beaucoup de choses à dire, mais je veux quand même garder nos chroniques. Donc je vais vous faire écouter un extrait où Vincent Bolloré parle, par exemple, de Sophie Binet, de Louis Boyard. Et moi, j'ai été présente aussi lorsque Raquel Garrido de LFI travaillait aussi avec Cyril Hanouna, c'est intéressant. Je vous ferai écouter dans un instant. Et puis je ferai écouter aussi un extrait où il explique que CNews est un succès parce que c'est un espace de liberté. On en parle dans un instant. Notre tour de table avec Aya Nakamura. C'est un dossier que vous avez pris déjà il y a quelques jours, donc on est obligé de continuer pour le suivre. Parce qu'on a pris une autre tournure depuis quelques temps et depuis ce matin. On s'est d'abord amusé, on va le dire, Mathieu Bocoté, de l'affaire Aya Nakamura. Mais elle est en train de devenir un sujet politique à part entière. D'autant qu'un discours se construit très rapidement. La critique d'Aya Nakamura ne serait qu'un prétexte pour justifier une charge raciste contre elle. Et c'est au décryptage de cette polémique qui enfle. Et ce n'est pas à la veille de dégonfler que vous voulez consacrer votre première édito. Je peux me permettre de dire quelque chose ?
Oui, bien sûr.
Je dis rarement des petites remarques, mais je suis très étonnée de voir que plusieurs chaînes ont sorti beaucoup de noir pour parler d'Aya Nakamura. Je suis très choquée. Non, mais d'un coup, on sait aller les chercher. Je ferme la parenthèse.
Alors, donc, que s'est-il passé depuis quelques jours et où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, je retrace les étapes de la polémique parce qu'on tend à les oublier en ce moment. Le point de départ, c'est une polémique, une provocation d'Emmanuel Macron, il faut dire les choses comme telles, qui décide de dire « elle sera la voix, l'incarnation de la France au moment des JO ». Emmanuel Macron est un homme très intelligent, il ne peut pas ne pas savoir la portée d'une telle déclaration qui est reprise ensuite dans l'Express, nous le savons. Donc une provocation inaugurale. Provocation qui fonctionne parce que plusieurs, n'appréciant pas le style musical de Mme Nakamura, n'appréciant pas ce qu'elle incarne culturellement, c'est-à-dire une forme de France américanisée pour l'essentiel, qui ne croit pas nécessairement que ce soit celle qui incarne le mieux la défense de la langue française, disent non merci. Réaction, tout de suite, racisme, racisme, racisme. Mais là, les accusations viennent de la gauche d'abord. Sans surprise, la gauche sait-elle faire autre chose qu'accuser de racisme ceux qui ne partagent pas ses enthousiasmes? Ensuite, des réactions racistes, est-ce qu'il y en a eu? Il y en a eu des vraies. Il ne faut pas le nier là-dedans. Elles étaient marginales. Et je note que la gauche s'est fait un devoir de les faire monter, pour que tous les voient, des réactions marginales racistes ont existé. Et là, on dit, voilà le fond de l'histoire. Ces gens, ces quelques racistes qui ont pu s'exprimer, ce sont les vrais critiques de Mme Nakamura. Tous les autres n'ont pas le courage d'aller jusqu'au racisme, mais pourtant, telle serait la vérité de la critique. Ça évolue. Et là, le système médiatique cherche véritablement à construire une polémique. sur le mode « la France raciste se mobilise contre Mme Nakamura », même si près de plus de 60% des Français ne veulent pas qu'elle soit la voix de la France à ce moment. Doit-on comprendre que plus de 60% des Français sont racistes? C'est une question qu'on peut se poser. Apparaît, et ça on a vu ça hier, je crois, Marion Maréchal, qui était de passage une matinale, et on lui demande pourquoi vous ne voulez pas que ce soit Mme Nakamura. Et l'intervieweuse dit tout de suite « parce qu'elle est noire ». Donc là, l'accusation est lancée. Donc avant même, on ne prend pas au sérieux les arguments de Marion Maréchal dans les circonstances, qu'on peut accepter ou non. On jette le soupçon de racisme, peu importe ce que vous direz, c'est parce qu'en tant que tel... Donc là, et j'ai même entendu des gens essayer là reprendre cette accusation de manière un peu étonnante, comme si pour participer en ce moment au consensus médiatique, il faut soi-même lancer la pierre, soi-même accuser de racisme. Alors, pour ne pas être accusé de racisme en ce moment, il faut accuser les autres de racisme. On connaît la mécanique. Ce qui nous conduit, donc la scène est mobilisée, ce qui nous conduit à aujourd'hui, la polémique du jour en la matière avec Rachida Dati. La scène est rapportée, donc c'est un sénateur RN, Émeric Durox, qui questionne Mme Dati à ce sujet. Et lui pose des questions qui sont des questions qu'on peut juger légitimes sur le style musical de Mme Nakamura, sur son rapport à la langue française, sur est-ce qu'elle, en fait, sur sa capacité à porter l'héritage, aux circonstances d'Édith Piaf. Est-ce que ce sont. Bon, elle pose ces questions. Est-ce qu'elles sont légitimes? Rachida Dati parle de la qualité des textes, avec un ton un peu moqueur, parce qu'il est il n'est pas inimaginable d'être moqueur lorsqu'on nous présente Mme Nakamura comme la grande voix de la France aujourd'hui. Tout le monde, je pense que ça doit être possible. Rachida Dati répond, et là c'est assez intéressant, elle dit tout de suite, il faut faire attention, les critiques ne sont que des prétextes pour permettre d'exprimer un pur racisme. Donc Mme Dati, elle-même qui a ce qu'on dit, vient de la droite. Mais tout le monde a vite oublié d'où elle venait de ce point de vue, reprend les arguments à la Sandrine Rousseau en disant « Vos arguments ne sont que des prétextes. Ce que vous dites ne compte pas parce que je détecte derrière votre propos la vraie raison qu'est le pur racisme. » Puis ensuite, elle dit « De toute façon, tous les goûts sont dans la nature et les goûts ne se discutent pas. » Donc finalement, les uns aiment Mme Nakamura et d'autres ne l'aiment pas. On s'en fiche un peu dans les circonstances. Je suis frappé de voir qu'ici, Rachida Dati, qui est une femme de qualité, ne se contente pas d'être la police de la pensée, mais la police des arrière-pensées. Elle dit « Peu importe ce que vous me direz, quels que soient les arguments que vous avancerez, quels que soient les arguments que nous entendrons dans l'espace public, je sais que ces arguments relèvent en fait de la feinte, ils relèvent en fait de la parade. La vérité des choses, c'est que c'est un pur racisme qui s'exprime en ce moment. » Et là, c'est le point d'aboutissement de la controverse aujourd'hui. Le dispositif médiatique est mis en place. Soit vous êtes pour Mme Nakamura, soit vous êtes raciste. Mais je comprends bien que 65% des Français le sont peut-être dans les circonstances.
Alors, mais le racisme est-il, oui ou non, un véritable élément dans cette crise?
Et vous avez raison d'insister avec cette question parce que, oui, on en a vu. Personne ne va dire qu'on n'a pas vu quelques commentaires ici et là fort désagréables et tout à fait condamnables à son sujet. Mais j'ajoute que ces commentaires sont marginaux. Ces commentaires sont marginaux. Et il faut, mais ça c'est tout le dispositif politico-médiatique dominant qui fonctionne toujours de la même manière. On va chercher le commentaire odieux. Le commentaire odieux, on dit, c'est le représentant de la véritable pensée collective. Et dès lors, tous ceux qui avancent avec des arguments, est-il permis, posons la question clairement, est-il permis de ne pas considérer que Mme Nakamura soit une grande figure de la poésie française, de la langue française? Est-il permis de l'exprimer sans se faire accuser de racisme? J'aimerais qu'on me le dise. Est-ce qu'on peut ne pas aimer sa musique et considérer qu'elle n'est pas l'héritière de la grande chanson française sans se faire accuser de racisme? Est-ce qu'on peut s'inquiéter de l'américanisation de la France, dont elle est le symptôme, je pense qu'on peut difficilement le contester, sans se faire accuser de racisme? Est-ce qu'on peut se désoler de son style, qui est assez vulgaire, j'espère ne pas être vexant en disant ça? À tout le moins, il y a une forme de vulgarité recherchée, provocatrice peut-être, est-ce qu'au fond d'elle-même, c'est un être très raffiné, mais à tout le moins, son personnage public laisse croire autre chose, sans se faire accuser de racisme ou de mépris social. Je constate que les arguments, et c'est toujours la même chose. Vous noterez, les polémiques fonctionnent toujours comme ça. On dit, il y a des attaques racistes contre Mme Nakamura. Et là, les chaînes info répètent ça sans cesse, attaque raciste, attaque raciste, attaque raciste. Dès lors, on comprend que si on ne veut pas être laissé, je le disais plus tôt, laissé dans la marge, passer soi-même pour un raciste, passer soi-même pour un infréquentable, passer soi-même pour un petit salopard d'extrême droite, on comprend qu'on doit participer soi-même à l'accusation pour avoir le droit de conserver son existence médiatique et son existence publique.
Je vous interromps un peu, pardonnez-moi, mais est-ce que ce n'est pas parce que les critiques par rapport à Aya Nakamura viennent de la droite ? Est-ce que les critiques par rapport à Aya Nakamura ne sont pas justement, ce ne sont pas les mêmes porteurs des valeurs de bon français, de belle image ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Je renverserai votre question, votre propos. Je pense que ce n'est pas parce qu'elles viennent de la droite qu'elles sont critiquées, c'est que si vous critiquez Madame Nakamura en ce moment, vous passez à droite. En ce moment, dans la dynamique d'actualisation du rapport gauche-droite, qui critique Madame Nakamura en ce moment passe à droite. Et qui, sur Terre, veut passer à droite? D'ailleurs, on ne passe pas à droite, on dérive à droite, ne l'oubliez pas. On salit son âme quand on passe à droite. Passer à droite, c'est mal, il faut le savoir. Donc, sachant cela, qui a envie d'avoir la mauvaise réputation en ce moment? Donc, tous envoient des signes ostentatoires d'adhésion au grand récit de la pour dénoncer la France raciste et moisie qui se réveillerait dans les circonstances. C'est assez étonnant. Par ailleurs, on dirait ça d'un mot, hein, qui contrôle la définition du racisme dans nos sociétés, contrôle la définition de la morale publique et peut dès lors frapper d'interdit ceux qu'il n'aime pas. Je note que dans l'histoire récente de la chanson française mise au service de grands événements publics, il y a eu plusieurs controverses, il y a eu des moments de non-controverse. Madame Hendrix, qui a chanté la Marseillaise pour Simone Veil, qui était noire à ce que j'en sais si mes yeux ne me trompent pas, a suscité l'enthousiasme généralisé. Ça marche pas. Si les Français sont racistes, pourquoi était-il enthousiaste à ce moment-là? Quand Gainsbourg, c'est bien Gainsbourg, je crois, a inventé sa propre Marseillaise un peu remaniée, ça a choqué beaucoup de gens. Est-ce que c'était du racisme anti-blanc? Personnellement, moi, je trouve ça détestable, cette espèce de version remaniée de la Marseillaise. On a dit que c'est une offense au drapeau, une offense à la Marseillaise. Je suis d'accord. Suis-je un raciste anti-blanc parce que j'aime pas Gainsbourg à ce moment-là?
C'était Jesse Norman qui s'était enveloppé du drapeau blanc, ça a choqué.
Oui, mais de l'autre côté, au final, dans l'histoire, c'est quand même considéré comme un beau moment, un moment absolument magnifique. Et j'ajoute sur Gainsbourg une chose. Est-ce qu'on peut aimer Gainsbourg même si on n'aime pas cette chanson-là? Ah, c'est compliqué. On est obligé de faire des nuances. Donc, au final, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que dans l'espace public, tout la mécanique, le dispositif idéologique dominant fabrique des accusations de racisme dès lors qu'il veut provoquer censure ou autocensure. Et beaucoup aujourd'hui, je pense dans les prochaines semaines, beaucoup vont se convertir à Madame Nakamura en disant que c'est formidable, c'est génial, c'est exceptionnel. Ils ne l'avaient pas compris jusqu'alors. Apparemment, ils ne voudront pas déplaire à leurs proches. Je ne sais pas quels arguments ils vont sortir, mais ils vont s'autocensurer et vont finalement chanter aussi un peu comme la Macronie. Je pense, j'oserais pas le faire. Mais j'ai vu qu'une figure importante de la Macronie, Madame Oudéa Castara, a chanté ça avec tant d'enthousiasme. C'en était émouvant d'amour de la culture.
Dernière question, Mathieu Bocoté, je vous sens bien motivé sur le sujet. On en parle depuis longtemps. Est-ce que finalement, oui, mais c'est intéressant quand même. Oui, est-ce que cette controverse montre justement qu'elle n'est pas finalement aussi superficielle qu'elle n'y paraît? Là, il y a beaucoup de leçons à tirer.
La culture populaire est le lieu des affrontements symboliques les plus forts. Quoi qu'on en dise, c'est pas pour rien que le cinéma c'est aussi important, que la poésie c'est aussi important, que la chanson c'est aussi important, parce qu'à travers ça sont véhiculées des visions du monde. Madame Nakamura est présentée ici comme le symbole de la prochaine France, la France de l'avenir. Donc on peut se demander, est-ce qu'on souhaite cette image de la France ou une autre pour la France de l'avenir, à moins qu'on considère que le débat soit interdit. J'ai une petite hypothèse par ailleurs. On nous dit, ceux qui critiquent Mme Nakamura le font par racisme. Moi, je renverserais l'accusation, si je peux me permettre. Ceux qui nous disent ça, en fait, sont souvent ceux qui l'ont choisi en fonction de son identité raciale et ne peuvent pas s'imaginer qu'on la critique pour d'autres raisons que la raison pour laquelle ils l'aiment eux. Est-il possible d'apprécier ou non cette figure, Mme Nakamura, de la critiquer ou de la louanger, tout ça, sans considérer les arguments raciaux dans tout cela? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on étouffe le débat, qu'on le censure et qu'on nous explique que soit on applaudit, soit on est raciste. On a compris.
Soit on applaudit, soit on est raciste. On parlera dans un instant de l'audition de Vincent Bolloré à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, qui fait beaucoup parler ce soir. Hein. C'est l'un des premiers, sinon le premier sujet qui est commenté ce soir sur les réseaux sociaux. On marque une pause et on en parle. À tout à l'heure.
On aurait pu...
Retour sur le plateau de Face à l'info. Beaucoup de sujets ce soir qu'on verra avec tous nos chroniqueurs. D'abord, le sujet de l'actualité, la une ce soir qui est discutée sur les réseaux sociaux notamment, c'est le sujet de l'ARCOM qui doit donc remettre en jeu les fréquences de 15 chaînes de la TNT. Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, a été auditionné cet après-midi, audition très attendue par une commission créée à la demande de LFI. Et je vous propose d'écouter ce que le président du groupe Canal+ a répondu à propos de la chaîne CNews qui fonctionne pour l'instant.
Le concept de Direct 8, c'était que tout était en direct et que tout pouvait arriver. et que c'est ça qui pouvait éventuellement intéresser les gens. Et puis on a mis beaucoup de temps, c'est devenu la première chaîne de la TNT. Et concernant CNews, comme vous savez, qui était aussi la deuxième de vos questions, en effet, CNews a mis du temps et a perdu pas mal d'argent. Elle en perdait avant que je n'arrive et elle en perd toujours encore maintenant. Mais ça y est, maintenant, elle a pris sa place puisque CNews, depuis 3 mois, et en tout cas au 13 mars aujourd'hui, sur le mois de mars, est en tête devant BFM. Et comme BFM vaut beaucoup d'argent et gagne beaucoup d'argent, dit-on, CNews va évidemment se mettre à gagner beaucoup d'argent et sera non pas équilibré, comme vous ont dit les gens de mon équipe, je ne sais plus dans quelles années, mais assez vite, parce que la télévision gratuite, c'est assez simple, c'est fonction de l'audience. Si vous avez une grosse audience, là, les gens payent plus cher la publicité que si vous avez une petite audience. Donc comme la 8 est devenue la première chaîne de la TNT et que CNews est devenue la première chaîne d'info, je ne doute pas qu'elles vont gagner de l'argent. Les contenus du groupe Canal n'ont qu'un objectif, c'est de servir ses abonnés ou ses téléspectateurs. Voilà. D'ailleurs, si ça servait à autre chose, ça ne marcherait pas et ce ne serait pas un succès. Donc, je vous redis, Canal, son succès est dû au fait que c'est le meilleur. Voilà. Et quant aux chaînes gratuites, dont vous parlez tout à l'heure, et de CNews, pourquoi est-ce que CNews est un succès? Voilà. Parce que CNews raconte la vérité, reçoit tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui veulent y aller. Et que c'est aujourd'hui un espace de liberté. C'est pour ça que CNews marche. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de particulier qui est dedans. Et C8 marche parce que là aussi, il y a un espace de liberté. Je crois que vous recevez Cyril Hanouna demain. Vous vous demanderez pourquoi Cyril Hanouna fait plus de 2 millions de personnes tous les soirs, jeunes, qui viennent le regarder. Voilà, ils ont envie de regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a de l'idéologie là-dedans ou chez Cyril Hanouna? Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a une liberté, une joie. Vous savez, les gens rentrent souvent fatigués. La vie en France aujourd'hui est peut-être moins facile que ce qu'elle était avant. Et je crois que les gens sont contents d'allumer la télé. Ceux qui peuvent s'offrir le payant au Canal et beaucoup de distractions possibles. Et puis ceux qui ont moins de moyens ou pas de moyens, ils ont des chaînes gratuites qu'ils peuvent regarder.
Charlotte Dornelas.
Ouais, et alors, il y a beaucoup de choses dans la déclaration. Bon, la première chose, c'est que je suis contente de
voir. On a mis deux extraits.
Que tous les députés, même à l'extrême gauche, sont préoccupés de savoir qu'une entreprise doit gagner de l'argent et que ce n'est pas un puissant fond. C'est la première chose qu'on découvre dans cette audition. C'est formidable.
Oui, parce non, que les chaînes de services publics, c'est pas tellement.
Oui, c'est
le même regard.
Et la deuxième chose, sur la question de CNews, c'est qu'en effet, je pense que l'histoire initialement de CNews, c'est à la fois l'histoire d'une rencontre avec une audience. Ça, c'est assez indiscutable. Et d'ailleurs, on a vu le ton se durcir à mesure que l'audience augmentait, par la force des choses, des détracteurs, je veux dire. Mais on a vu aussi une autre chose, c'est-à-dire que CNews a fait le choix initialement d'inviter des gens qui n'étaient pas invités ailleurs. Et ce faisant, ils ont eu la critique de gens qui sont encore aujourd'hui invités et qui refusent de venir parce qu'ils ne supportent pas l'idée d'être présents sur un plateau en même temps que quelqu'un qui a des idées trop éloignées des leurs. Donc ils sont le problème de la liberté et du pluralisme, en l'occurrence sur un plateau de télévision. Et ça n'est pas à CNews de porter le poids de leur boycott. Il faudra le répéter autant de fois que possible. C'est pour ça que je leur dis, s'ils ont envie de débattre, vraiment venez débattre avec plaisir.
Espace de liberté, inversion de valeur, comme toujours, on critique ceux qui sont pour la liberté. Je vous ferai écouter dans un instant lorsqu'il dit qu'il est démocrate, chrétien. On en parle dans un instant. D'abord, votre chronique, mon cher Guillaume, je le disais en titre qu'on va parler du niveau de culture de notre classe politique. Hier, une ministre a fait parler d'elle en confondant opprobre et opprobre. Bon, il y en a plusieurs qui ont fait ce genre d'erreur, mais de façon générale, il est critiqué, il est bon ton de critiquer justement notre classe politique qui ne maîtrise pas vraiment son français. Alors est-ce que c'est la mauvaise maîtrise du français, l'approximation ou même la grossièreté ou la vulgarité qui sont vraiment récents en politique, ou est-ce qu'il y a un niveau, une chute récente de ce niveau?
Bon, il y a quelque chose d'un peu choquant là avec cette majorité ou même le macronisme qui se posait un peu comme les gardiens de la raison ou de la culture face au complotisme, face au populisme, bon, et quand effectivement leur niveau dégringole ou ils sont pris la main dans le sac d'approximation, de graves erreurs de syntaxe, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas très joyeux, mais sincèrement, ça n'a pas commencé avec eux. Et Il ne faut pas oublier que les politiques sont sous pression, par définition, que c'est toujours facile de trouver la petite bête. Et c'est pas le, enfin, il y a toujours, vous pourrez trouver même dans l'histoire des dirigeants qui ont raconté des choses absurdes. C'est pas tellement ça le sujet. C'est pas, je pense, les dérapages, les bourdes qu'il faut prendre comme marqueur, en fait. Je pense qu'il faut, comparer des choux et des choux. Il faut comparer, par exemple, des discours de vœux avec des discours de vœux. Il faut comparer les débats au Parlement avec les débats au Parlement, des discours, etc. Et quand on fait ça, il y a quelque chose qui est quand même extrêmement choquant qui arrive.
Ah.
Qui est surprenant. Pour vous l'expliquer, juste imaginez un président de la République, nous sommes en 1969, il s'appelle Georges Pompidou, et on l'interroge sur un fait divers. On lui dit, voilà, il y a une prof qui s'est suicidée parce qu'elle a eu une histoire avec une étudiante. Autant pour moi, oui, bien sûr un étudiant, mais c'était une prof, une professeure. Et voilà ce qu'il répond du tac au tac. Comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfant perdu, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. C'est du Paul Éluard, mesdames et messieurs. Voilà. Qui aujourd'hui pourrait avoir une répartie de ce type ? Bah, poser la question, c'est répondre. En fait, personne. Et donc, quand on compare, quand on fait cette espèce de comparaison terme à terme, on se rend compte que c'est pas seulement la maîtrise de la langue française, c'est pas seulement la richesse du vocabulaire, c'est pas seulement la précision du vocabulaire. En fait, c'est la puissance du raisonnement, c'est même la vivacité d'esprit. En fait, c'est quasiment Darwin à l'envers. Il y a vraiment eu une chute de niveau. Et Marcel Gauchet a raison, il y a vraiment... Les dirigeants politiques actuels sont plus cultivés. À quel moment ça s'est produit ? Voilà, les trois derniers présidents qu'on a eus, Nicolas Sarkozy, François Hollande et celui qu'on a aujourd'hui, Emmanuel Macron, sont pas des gens sans qualité. Ils sont même des qualités imminentes pour être arrivés là où ils sont, c'est sûr. Mais si on compare leur culture, même à un Jacques Chirac qui passait un peu pour une sorte de rusto qui buvait de la bière, en fait, cet homme, il savait lire le sanskrit, il savait lire le japonais, il s'était un spécialiste des arts premiers. François Mitterrand, on sait qu'il passait son temps à relire plus tard que Chardonne, etc. Il y a vraiment une chute de niveau. Et c'est pas seulement la culture classique, c'est pas seulement ce que Pascal appelle, disons, l'esprit de finesse, c'est aussi l'esprit de géométrie. Parce que ça n'a pas été compensé, disons, par une culture scientifique, par une culture mathématique, on n'a pas des grands économistes, c'est pas vrai. Hein, Yves Bréchet, le commissaire à l'énergie atomique, l'ex-commissaire à l'énergie atomique, dans une commission parlementaire, qui s'expliquait pourquoi, finalement, la filière nucléaire s'était effondrée en France, je le cite... Hein, la faiblesse des analyses conduisant aux décisions de l'État pose question. On peut parler d'une ignorance stupéfiante en matière technologique et scientifique des dirigeants politiques. Donc oui, il y a eu une chute de niveau, c'est indiscutable.
Alors, est-ce que c'est absolument indispensable finalement d'être cultivé pour bien diriger en politique ?
On pourrait se poser la question, c'est un peu le vous savez, il y avait une sortie un peu provocatrice de Nicolas Sarkozy, je crois que c'était en 2006, il disait, mais c'est scandaleux, dans un concours administratif, alors c'était pas pour diriger le sommet de l'État, mais c'était au moins pour être un haut fonctionnaire, c'est un sadique ou un imbécile qui a mis la princesse de Clèves au concours. D'ailleurs, ça n'a pas de lien direct, c'est pas en application de ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy, mais au concours administratif, on a supprimé les épreuves de culture générale. Donc la question qui se pose, est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas raison ? Est-ce que finalement, est-ce qu'il faut être un singe savant, réussir à question sur un champion ? Est-ce qu'il faut être capable de placer des citations dans les dîners en ville pour être un bon dirigeant ? Poser la question comme ça, évidemment, c'est répondre bien sûr que non. Et pourtant, on se trompe quand on part de l'idée que pour être un bon dirigeant politique, surtout que la politique, c'est finalement est au sommet de la société. Quand vous êtes président ou premier ministre, vous avez l'ensemble des sujets techniques à maîtriser, à coiffer. Donc par définition, vous ne pouvez pas être un spécialiste. Le fait de ne pas avoir besoin d'être un spécialiste d'un sujet pour être un dirigeant politique, ne signifie pas pour autant qu'il faut être ignorant. On peut même d'ailleurs, et c'est ce que disait le général de Gaulle dans l'armée de métier en 1929, la véritable école du commandement, c'est la culture générale. Par elle, la pensée est à même de s'exercer avec ordre, de discerner dans les choses l'essentiel de l'accessoire. Et je pense que là, tout est dit parce que précisément diriger, c'est voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et pour ça, il faut avoir énormément d'informations, il faut que son intelligence se soit exercée et avoir emmagasiné beaucoup de connaissances. Pourquoi finalement ? Parce que souvent,
Être un dirigeant, c'est trancher des dilemmes. C'est quand précisément il n'y a pas de solution. C'est quand le règlement ne donne aucune solution. C'est quand ChatGPT ne donne aucune solution. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut-il aller à droite ? Faut-il aller à gauche ? On ne sait pas. Seul l'avenir le dira d'une certaine façon. Et cette capacité à trancher, souvent, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Et pour ça, il faut avoir énormément, précisément, de connaissances, une énorme culture pour pouvoir hiérarchiser les informations. Et enfin, n'oublions pas que chez les mammifères humains, c'est l'intelligence qui gouverne et qui doit dominer. En fait, entre Gandhi et un combattant de MMA, c'est Gandhi, celui qui est puissant et celui qui dirige les hommes. Et donc, attention à ce que font les démocraties avec des pantins, des marionnettes qui sont des gens capables de réciter des trucs, des éléments de langage et faire de la com, etc. Attention au niveau derrière. Si les démocraties ont été au sommet de la puissance, précisément parce qu'elles étaient au sommet de la culture, au sommet de la science et au sommet de la connaissance et de l'intelligence. Si demain, les Chinois, les Russes sont plus cultivés, plus intelligents et ont un meilleur niveau scolaire que nous, ce qui est déjà le cas, attention à ce qui va se passer.
Merci beaucoup pour votre regard, mon cher Guillaume Marmenant. Vous vouliez parler donc de Philippe de Gaulle, mais on sait de la mort, voilà, du fils du général de Gaulle, et on s'est dit qu'on peut... On reparle une autre fois pour qu'on puisse parler
de ce sujet. Oui, mais quand même, je remarquer, ça va épouser ou continuer la chronique de Guillaume. Il n'y a pas que les politiques qui manquent de vocabulaire, qui n'ont pas le sens des nuances. Et on nous demande, nous, si j'ai bien compris, en particulier Reporters sans frontières, nous devrions regarder et écouter nos confrères pour savoir ce qu'est la hiérarchie de l'information et comment on traite l'information. Alors aujourd'hui, j'étais curieux de savoir ce que l'on allait dire sur l'amiral de Gaulle.
Alors.
Et alors, première chose qui apparaissait, qui sonnait, France Info, toutes les 10 minutes, le résistant. Il n'a jamais été résistant.
Qui a saisi l'Arcom ? Non, je ferme la
porte. Non, mais c'est quand même extraordinaire. C'est quoi un résistant ? C'est un franc-tireur. L'amiral de Gaulle a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à rejoindre son père. Dans les forces françaises, il était un militaire. Il a navigué sur des navires. Il a piloté des avions, tout type d'avions. Il était un homme de guerre. Et non pas celui qui faisait des coups. Il y a une nuance totale entre ceux-ci et ceux-là. Mais pour autant, apparemment, on peut toute une journée reprendre le même terme. Il n'y a même pas un rédacteur en chef qui va dire « Dis donc, tu te cours un peu, peut-être t'as pépère, il faudrait faire attention ». Non, ça passe comme ça, on s'en fout.
Très intéressant comme remarque. Un hommage national se tiendra la semaine prochaine aux Invalides en mémoire de l'amiral Philippe de Gaulle. Carrière militaire exemplaire, a déclaré le chef de l'État. On en parlera demain si on a un peu plus de temps. Merci beaucoup. Charlotte Delaire, nous allons parler de Sciences Po. Et Marc Menon, je vous ferai réagir dans un instant sur quelques extraits de la commission tout à l'heure. Charlotte Delaire, c'est intéressant puisque là, on a appris ce soir, juste avant l'émission, que le gouvernement va saisir la justice après l'action pro-palestinienne à Sciences Po. Alors là, tout change, alors qu'on en parle déjà depuis longtemps de ce genre d'action. Mathias Vichra, lui, le patron de Sciences Po, a annoncé sa démission aujourd'hui même en évoquant un renvoi correctionnel dans une affaire de violence conjugale dont ils s'accusent mutuellement, lui et son ancienne compagne. Une coïncidence parfaite avec la scène observée hier dans l'école parisienne et la dénonciation d'étudiants juifs refoulés à l'entrée d'un amphithéâtre rebaptisé Gaza pour l'occasion. Ça fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Comment analyser ces faits ?
Voilà, je n'ai pas la date du renvoi en correctionnel et je ne sais pas ce qui s'est passé chez Mathias Vichra, mais c'est sûr qu'il est impossible de ne pas voir la coïncidence entre ces deux informations, surtout que ça fait quand même quelques temps que Mathias Vichra, sur ce dossier en particulier, dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants, je le précise, le met dans une situation compliquée. Hein. Il s'était mis en retrait de ses fonctions, ou il avait été mis en retrait de ses fonctions au mois de décembre, oui, quand ils avaient été entendus en garde à vue, lui et son ancienne compagne. Il est revenu fin février pour reprendre la tête de l'école, et là, donc, il finit par démissionner. Alors, sur ce point, parce que en effet, il n'y a pas de plainte, parce que lui a dit beaucoup qu'il n'y avait pas de plainte dans ce dossier, il l'a rappelé, en France, dans le fonctionnement de la justice, c'est le parquet seul qui a l'opportunité des poursuites. Donc, qu'il y ait plainte ou pas, et quoi qu'en pensent même parfois les victimes, s'il y a des éléments, le parquet peut poursuivre. Je referme la parenthèse, ça ne veut pas dire qu'il sera condamné ou pas, et d'ailleurs, il n'attend pas la condamnation
ou pas pour démissionner. Alors certains, et dans des articles qui avaient été écrits précédemment, y ont vu le retour, parfois même si on pense qu'il est malheureux, de sa propre pièce. Pourquoi ? Parce que Mathias Vichra a été nommé à la tête de Sciences Po après, vous savez, les démissions successives d'Olivier Duhamel d'abord, puis de Monsieur Millon qui avait été poussé à la démission, on va dire, précisément parce qu'il avait dit qu'il savait les rumeurs qui couraient sur son ami Olivier Duhamel. Et en arrivant, M. Vichra expliquait qu'il faisait de, je cite, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Donc vous savez, derrière le terme violences sexuelles et sexistes, il y a toujours ce continuum. Et donc tout, l'imaginaire, mais en tout cas tout le militantisme sur la confusion entretenue entre le début des violences sexuelles et sexistes, Mathieu nous l'a expliqué de nombreuses fois. Et j'ajoute qu'il avait dit aussi l'autre priorité de son mandat, c'était les questions environnementales, sans qu'il y ait de lien direct, si ce n'est en effet l'entreprise, notamment idéologique, le regard idéologique sur les choses. Et il y avait des syndicats et des étudiants qui, précisément quand il a été placé en garde à vue, ont demandé sa démission, comme on le voit dans ce mouvement-là depuis le premier jour. Étudiants qui avaient été soutenus sur place, par ailleurs, par Madame Sandrine Rousseau. Donc c'est pas nouveau, on ne découvre pas ce sujet-là. Et il y avait des professeurs à l'époque, avant que lui-même soit accusé, qu'il accusait d'intransigeance dans les dossiers qui touchaient certains professeurs à Sciences Po. Certains qui avaient été avec des classements sans suite, donc la justice faisant loi, en tout cas les décisions de justice faisant loi dans ces cas-là, eh bien à Sciences Po, ça n'était pas nécessairement le cas. Et en plus, il avait contre lui, on va dire, des critiques depuis le début sur le mode de nomination, comment il était arrivé là, parce qu'il avait peu, voire pas d'expertise académique, en l'occurrence, pour arriver à la tête de Sciences Po. Il est de la même promotion qu'Emmanuel Macron, ce qui n'avait pas manqué d'attiser les critiques. Et il avait lui-même un parcours de militant de gauche, initialement à l'UNEF, quand il était lui-même étudiant, puis directeur de cabinet de Monsieur Delanoë, puis de Madame Anne Hidalgo, donc un parcours marqué à gauche. Et interrogé sur le wokisme ces dernières années, qui avait été constaté plusieurs fois à Sciences Po, il avait relativisé le sujet en parlant d'effet de loupe, en disant oui, on se focalise sur certaines choses, mais ça n'est pas du tout le cas à Sciences Po. Et certains à Sciences Po lui reconnaissaient une préoccupation pour le pluralisme, alors peut-être en comparaison avec ses prédécesseurs aussi, ça je ne sais pas, et il n'empêche qu'il y avait en permanence à Sciences Po et même sous sa présidence, la question de la censure, du boycott, de l'intimidation, n'a jamais cessé. Elle ne l'a pas attendu et elle n'a pas cessé avec lui et elle n'a pas provoqué toujours les mêmes indignations. Et il évoque dans son communiqué, bon ça c'est un peu l'ironie de l'histoire, il évoque dans son communiqué de démission, donc sur le cas des violences conjugales et non pas sur ce qui s'est passé hier, je le cite encore, une situation qui pourrait nuire à la réputation de l'école. Je crois que la réputation de l'école n'a pas attendu sa démission ou pas pour avoir d'autres raisons, d'autres personnes qui lui nuisent.
En effet, hier, des étudiants ont bloqué l'amphithéâtre, rebaptisé pour l'occasion Gaza, tout en interdisant l'accès des étudiants sionistes ou juifs. Que retenir de cette séquence grave ?
Alors, il y en a beaucoup qui ont présenté assez naturellement ces derniers jours ces étudiants comme pro-palestiniens. Alors, je pose la question du sens d'un tel militantisme. Hein. Vraiment, merci beaucoup pour les Palestiniens d'avoir occupé un amphithéâtre à Sciences Po. Enfin, c'est grotesque, c'est juste grotesque. Et la deuxième chose, c'est que c'est leur faire beaucoup de crédit. Pourquoi ? C'est pas ce qui leur est reproché d'être pro-palestinien. Et je pense qu'il faut insister là-dessus parce que eux risquent de s'en servir en dénonçant à leur tour une censure du seul fait qu'ils militeraient pour telle cause ou telle cause. En l'occurrence, ce qui leur est reproché, c'est de prendre prétexte d'une cause pour bloquer un amphithéâtre, appeler à la censure et refuser l'accès à l'amphithéâtre pour des raisons politiques, en parlant de sionistes, et encore pire, pour des raisons de pure discrimination et d'antisémitisme en l'occurrence, en parlant de juifs, et d'interdire l'accès à l'amphithéâtre pour ces seules raisons. Alors, au prétexte évidemment d'une opposition politique, comme d'habitude, on connaît la chanson par cœur. Et si le président de la République a parlé de propos inqualifiables? Bah, précisément, ni la direction ni son ministre n'ont été capables de les qualifier, alors qu'ils sont qualifiables, précisément. Ils sont insupportables, mais ils sont qualifiables. Ce qui n'a pas été fait, en l'occurrence, même avec un ministre et une direction qui ont réagi plus rapidement que dans d'autres situations. Et si nous sommes choqués de ce qui s'est passé hier, honnêtement, personne ne peut être étonné de ce qui s'est passé hier, pour plusieurs raisons. D'habitude, je note que ce sont parfois les directions des établissements, et c'est déjà arrivé à Sciences Po, qui provoquent elles-mêmes l'annulation de conférences ou la venue de certaines personnes dans leur bâtiment, en prenant prétexte de l'ordre public pour mieux enterrer l'éventuelle contradiction jugée insupportable par une partie des étudiants, voire même par une partie de la direction. Parce que quand M. Rouillant est invité dans une université, on pourrait aussi prétexter le risque de trouble à l'ordre public, me semble-t-il. Ça n'est jamais fait dans ces circonstances-là, ou Mme Butler, un peu plus récemment. Alors, c'est aussi une école, et ça a l'air de n'avoir pas de rapport, mais je vais y venir. C'est aussi une école dont l'administration utilisait, par exemple, l'écriture inclusive, malgré les dénégations de Mathias Vichra. Hein, ils écrivaient, ils envoyaient leurs mails, qui remplaçaient hommes et femmes dans les cours de danse. Vous vous souvenez, ils avaient mis followers et leaders dans les cours de danse, on en avait parlé, qui organise le Hijab Day, vous savez, un jour on peut mettre le hijab, ou encore la Queer Week, donc qui est bien atteinte par tous les sujets du wokisme, dont M. Vichra lui-même nous expliquait qu'il ne savait pas le déceler exactement et qu'il n'y avait qu'un effet de loupe. Et il y a deux descendants d'Émile Boutmy, qui lui est à l'origine de Sciences Po et qui donne son nom à l'amphithéâtre baptisé Gaza hier après-midi, qui avait écrit un texte il y a quelques temps, c'était dans le Figaro, et il disait, je vais les citer, ça résume bien le sujet, « Nier le passé, ou même le criminaliser tout entier, déconstruire l'histoire, s'opposer surtout à toute forme de débat en assénant avec agressivité des vérités que seuls les éveillés, donc les woke, sont à même de comprendre, c'est se situer bien loin et même à l'opposé du projet initial de l'école libre des sciences politiques. Preuve qu'on n'a pas attendu hier pour que le sujet soit extrêmement préoccupant à Sciences Po comme dans d'autres universités. Et le sujet a l'air différent en apparence seulement, parce que le ressort est le même. Ça n'est pas la défense de conviction par argumentation, mais par censure. Et le seul moyen de contester la réalité sans avoir de problème, c'est d'imposer la censure pour ne surtout pas avoir des arguments qui, précisément, nous remettent la réalité en face des yeux. Mais le vrai problème, c'est pas ce qui s'est passé hier seulement. C'est que ça se passe non seulement dans les universités, mais dans la société tout entière. Et c'est parfois porté par des responsables politiques. Et c'est très bien que le gouvernement saisisse la justice, parce que là, il y a une censure et il y a clairement de l'antisémitisme pur et de la discrimination pour entrer dans l'université. Mais quand cette discrimination est politique et portée par certains membres du gouvernement lui-même, qui est là pour réagir? Parce que c'est le début, ça commence toujours comme ça, en l'occurrence. Et les appels à la censure, vous ne pouvez pas dire ça, on ne peut pas vous laisser dire ça, au boycott de tout désaccord, a remplacé de fait la discussion contradictoire dans le pays. Et il faut moins s'inquiéter d'un cas qui serait isolé qu'un cas qui est représentatif de ce qui se passe au-delà des murs de l'université aujourd'hui. C'est pour ça que on est évidemment choqués de ce qui s'est passé hier, mais enfin, il faut vraiment être malhonnête pour être étonné de ce qui s'est passé hier.
Comment expliquer que ces étudiants se permettent cela, que les condamnations jouent sur les mots et que la réaction soit finalement assez molle au regard de ce qui arrive? Et je vais vous faire une petite... vous dire ce qu'a dit Gabriel Attal qui s'est rendu sur place.
La réaction, elle est assez molle. Alors évidemment, Gabriel Attal s'est rendu sur place. Le président de la République en a parlé dans le Conseil des ministres ce matin. Oui. Et le gouvernement a annoncé qu'il allait saisir la justice. Mais l'indignation, elle n'est portée politiquement, c'est-à-dire qu'elle n'est nationale, elle occupe tout le débat, que si elle est reprise médiatiquement avec le même degré d'intensité. Or, ce pays sait générer des indignations massives. Il sait écraser toute l'actualité avec certaines indignations qui sont voulues pour être incapacitantes et décrédibilisantes. Or là, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas plus le cas que pour Rouillant, ça n'est pas plus le cas que pour Judith Butler, ça n'est pas plus le cas que pour les dégradations d'université lors des blocages qui n'en finissent pas et que les directions n'interviennent pas, ça n'est pas plus le cas que pour certains propos de Jean-Luc Mélenchon qui ne seraient pas passés, mais le quart du huitième ne serait pas passé si quelqu'un était placé à droite. Mais à force de dire que ces sujets ou ces comportements sont portés par des minorités, il se trouve que ces minorités grandissent et deviennent parfois des majorités. En l'occurrence, à Sciences Po, il y avait une étude qui avait été faite par le CEVIPOF il y a quelques années qui étudiait l'évolution politique des étudiants à Sciences Po entre 2002 et 2022. En 2002, 50% d'entre eux se positionnaient à gauche. Aujourd'hui, c'est 71%. Dans la population générale, au même âge, c'est 41%. Donc, en 2022, Mélenchon fait 55% au premier tour à Sciences Po. vous savez, ils font des sondages à l'intérieur de Sciences Po. La droite, elle, récolte 7% des suffrages et Marine Le Pen à elle seule, 1% des suffrages à Sciences Po. Quelle est la conclusion de ça? C'est que les étudiants de Sciences Po ne sont pas représentatifs de la société. Ils prétendent vouloir l'incarner, et c'est d'ailleurs ce à quoi sert l'école dans une certaine mesure. Ils ne sont pas représentatifs. Donc quand ils appellent à la censure des personnes avec qui eux ne sont pas d'accord, ils appellent à la censure de la majorité de la société, potentiellement, alors qu'ils sont appelés à la diriger demain. Et l'entreprise de censure acceptée hier aux marges, plébiscitée, ce qu'on appelait les marges, c'est-à-dire ce qu'on a qualifié d'extrême droite, eh bien, les marges finissent par s'étendre à n'en plus finir. C'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. Et il suffit que vous disiez quelque chose et que les étudiants, en l'occurrence ceux qui sont concernés là par ce dont on parle, soient en désaccord pour qu'ils vous renvoient à l'extrême droite. Ça ne veut plus rien dire de concret. C'est simplement un endroit où on vous renvoie pour que la censure soit acceptée et soit acceptée beaucoup plus largement que dans l'amphithéâtre, en l'occurrence, de Sciences Po. Et donc tout ce qui déplaît aux enfants des censeurs légitimes d'hier est aujourd'hui renvoyé à l'extrême droite et donc la censure devient légitime et donc on a les enfants des censeurs qui finissent par censurer leurs propres parents. Mais c'est tout incroyable. Ça a été extrêmement prévisible et d'ailleurs certains l'avaient prévu.
Et je rappelle donc que Gabriel Attal a réagi, il s'est rendu sur place et il a déclaré « Je réaffirme notre détermination à ce que des sanctions extrêmement fermes soient prises. » La deuxième chose, c'est qu'un administrateur provisoire va être nommé très prochainement par le gouvernement. Je vous disais hier qu'il y avait déjà quand même un petit début quand on voit Sylvie Retailleau qui s'est rendue sur place et qui parlait d'incitation à la haine. On sentait que ça commençait à bouger, mais évidemment, comme vous l'avez dit, c'est assez étonnant de voir que c'est assez tardif. On va écouter un extrait de cette commission d'enquête où Vincent Bolloré a été auditionné aujourd'hui. Alors, en tant que propriétaire du groupe Canal+, alors je rappelle qu'il a bien insisté, qu'il n'est plus aux commandes, qu'il s'est même un peu étonné d'être là alors qu'il n'est plus aux commandes du groupe, que c'est Arnaud Dupuis-Fontaine qui est aux commandes et qui ne l'est plus du tout. Je vous propose d'écouter un extrait où il parle de Sophie Binet. Comme vous le savez, vous qui suivez beaucoup CNews, qui refuse de venir sur CNews, mais qui sort un livre, par exemple, dans le groupe Bolloré. Regardez.
Vous savez, le problème, c'est que le groupe est tellement vaste. Je ne sais pas combien il y a d'heures d'antenne, je ne sais pas combien il y a de journaux, je ne sais pas combien de livres, que vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais en fait, vous êtes LFI ». Boyard ne va pas être content. J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Parce que c'est d'habitude, c'est pas ce qu'on dit. Ah, si, monsieur Caron, monsieur Boyard, madame Machin, travaille chez vous, etc. Voilà, donc on peut prendre de tout. Je voyais que le livre de madame Binet de la CGT sortait chez Grasset ce matin qui est chez moi. Donc, donc vous pouvez prendre des petits bouts, les coller ensemble et faire un spectacle, enfin une théorie.
Et c'est vrai qu'on entend aussi, donc, si on prend par exemple que Canal+, certains disent que Canal+, est trop à gauche, etc. C'est assez étonnant.
Mais on pourrait reprendre l'édito de Mathieu, l'édito de Charlotte. C'est ce principe d'inversion. Il y a une pensée dominante. Et comme on ne demande jamais de démonstration, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de dire ça. Ça signifie que vous devez dire ça. Et par conséquent, si vous dites Bolloré, moi je l'ai rencontré, c'est un type bien, enfin il m'a fait une bonne impression. Et puis moi je travaille chez lui, on m'a jamais dit attention, voilà, il faut avoir telle attitude. Et d'ailleurs, c'est quand même affamant par rapport à tous les journalistes, jeunes journalistes, plus anciens, qui travaillent dans ce groupe. Est-ce qu'on leur a demandé leur carte de parti? Est-ce qu'on leur a posé des questions pour savoir quel était leur engagement militant, s'ils en avaient un? Et est-ce qu'ils cherchaient à servir une cause et laquelle? Non! Tout le monde est dans le même panier, il n'y a pas de différenciation. Il n'y a que des salauds qui voient à la bouffe, c'est des pauvres malheureux. Ils ont trouvé quelqu'un pour leur donner un petit quelque chose dans la gamelle. Et à partir de là, ils sont en servitude. C'est intolérable d'entendre ça. Et on l'a bien vu dans la manière dont ils interpellaient Vincent Bolloré cet après-midi. Il y avait une sorte d'agressivité, quelque chose de « attention, vous avez... ». J'avais l'impression, pour avoir été en Allemagne de l'Est à une certaine époque, quand j'étais jeune journaliste, mais j'avais l'impression d'assister à des réunions, on interpellait comme ça.
Les commissions d'enquête, c'est souvent ça aussi quand même.
Non mais d'accord, mais enfin, on peut y mettre un minimum de convivialité.
Le président, il a été très correct, le président de la commission, j'ai trouvé.
Oui, c'est vrai.
Bon, bah là, c'est quand même assez savoureux parce que ils ne se rendent même pas compte de ce qui est à l'intérieur du groupe. Et eux-mêmes, parfois, en étant les Torquemada contre le groupe, sont édités par le groupe. Donc c'est très drôle, en fait. C'est absolument drôle. Ça montre. Alors, c'est intéressant, d'ailleurs, il y a toute une réflexion qu'on pourrait développer, on n'a pas le temps, mais sur le lien entre le marché et la démocratie, entre le capitalisme et la démocratie, d'une certaine façon. C'est pas la même chose, mais il y a quand même des liens. On a cette idée un peu, surtout en France, un peu basique, parfois un peu bêta, que finalement, le service public, c'est quelque chose qui serait de qualité parce que ce ne serait pas soumis aux règles du marché. Et en fait, hein, ce n'est pas complètement faux. Il y a quelque chose, notamment, on prend toujours l'exemple de la BBC, mais c'est vrai, ou vraiment du service public des années 60, 50, 60, où il y avait un désintérêt complet, d'une certaine façon, de l'audimat. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ça? Très peu, peut-être les chaînes parlementaires un peu, peut-être une chaîne franco-allemande qu'on ne va pas citer, voilà, pas lui faire de la publicité. Mais peut-être ça, ces gens-là, ils font vraiment, ils se contrefichent de l'audience. Pour le reste, ils essayent aussi d'avoir de l'audience, mais ils n'en ont pas nécessairement. Et quand on travaille à l'intérieur quand on a cette expérience de l'intérieur, on se rend compte que ce qui fait qu'il y a la qualité ou pas, ce qui fait que les gens regardent ou pas, ce qu'ils sont intéressés ou pas, c'est vrai pour un livre, c'est vrai pour une émission de télévision, n'importe quoi, c'est qu'il y a de la qualité. C'est que vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi aux gens. Et donc dans ce discours, je trouve extrêmement sain, c'est tout à fait, que tient Vincent Bolloré, c'est l'inverse du temps de cerveau disponible.
Alors je vais vous faire écouter aussi un extrait, vous ferez réagir Mathieu Bocoté, parce que cet extrait m'a beaucoup plu aussi. Pourquoi? Parce que il parle de démocratie, il dit qu'il est démocrate, il dit qu'il est démocrate chrétien. Alors je rappelle encore une fois qu'il a été auditionné en tant que propriétaire du groupe Canal, c'est noté sur le site de la commission d'enquête, alors qu'il n'est plus du tout aux commandes.
Mais l'inverse du temps de cerveau, c'est-à-dire qu'on voyait bien cette phrase horrible qu'on a tous en tête, c'est qu'on cherchait à dire, enfin un peu n'importe quoi pour qu'il y ait de la pub. Et là, ce qui est très intéressant, c'est cette pédagogie. S'il y a de la publicité, c'est parce qu'il y a de la qualité. Et c'est parce qu'il y a de la qualité qu'il y a des gens qui regardent. Et c'est vraiment une inversion complète. Et c'est, moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et on sent qu'il y a un respect. Et du téléspectateur, et du lecteur, etc.
Je suis démocrate chrétien.
Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis démocrate chrétien. Alors, démocrate, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire que je suis à respecter les élus de la nation. Voilà. Et l'avis de la nation. Après, cet avis, je le trouve bon, je le trouve mauvais, je le trouve moyen, je le trouve... Voilà, je suis pour la démocratie. On a toujours été pour la démocratie dans ma famille. Je vous ai dit l'autre jour, tout à l'heure, que voilà, j'avais des tas de gens qui avaient fait des guerres extraordinaires, mais... Si vous remontez au Moyen-Âge, les Bolloré, ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque, qui étaient anglais, espagnols, etc. Et on les appelait, ils protégeaient des rivières. Enfin, je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse. Mais donc, coule dans mes veines un sujet de démocratie. Et je ne supporte que les gens qui sont démocratiques. Et je suis moi-même démocratique. Et puis après, il y a le mot chrétien, qui est pas un vilain mot. La chrétienté, c'est la charité. C'est l'espérance. Et là aussi, ça coule dans mes veines.
C'est une scène amusante, si je peux me permettre.
Je crois que c'était votre scène préférée.
Oui, parce que
d'un
côté, parfait, on a chacun l'imaginaire historique qui est le sien. Oui. Donc, d'un côté, on a des gens qui nous refont les procès de Moscou, ou alors la commission McCarthy, mais aucun des deux sont recommandables. Donc le procès idéologique, le procès de condamnation idéologique, et de l'autre côté, quelqu'un qui dit « moi j'ai mon propre imaginaire, et c'est une défense de la liberté qui remonte jusqu'au Moyen-Âge, qui remonte dans la tradition de la chevalerie française ». Donc c'est deux manières de se raconter l'histoire de ce pays, et je devine que selon nos préférences, on préfère soit les procès de Moscou, soit la longue tradition de la chevalerie française. Moi, je respecte tous les choix. Mais dans les circonstances, probablement que selon l'imaginaire dont on se réclame, ça a des effets différents dans notre respect de la démocratie. Et j'ajoute que l'appel à la démocratie, il est fondamental ici. La démocratie, c'est le pluralisme intellectuel organisé, le pluralisme politique. Ce n'est pas une norme et les autres sont dans le dérapage et la déviance idéologique.
Alors, un dernier extrait avant de terminer cette émission. Merci pour votre regard. Et Charlotte va réagir là-dessus. C'est sur le fait que Vincent Bolloré, on lui reproche d'inspirer une certaine terreur. Il répond.
Mais honnêtement, je n'inspire la terreur à personne que je connais. J'inspire la terreur à des gens qui ne m'ont jamais vu et qui écoutent ce qui est raconté dans un certain nombre de petites lettres. Et qui disent c'est un type épouvantable, il fait des choses horribles, etc. Le monsieur de Loire, là, dont vous me parliez tout à l'heure, qui est malade, j'en suis désolé, qui a été nommé, la présidente de Reporters sans frontières, qui a été nommée pour gérer tout ça, a dit quand Bolloré passe, les journalistes trépassent. Bon. Alors dès que j'arrive quelque part, avant même que j'arrive quelque part, aujourd'hui, les gens ont peur, les gens crédules, et s'en vont. C'est ça, cette histoire de terreur. C'est une histoire de réputation, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est là où je disais, je suis le paratonnerre et le bouc émissaire. C'est comme ça.
Donc on comprend bien, Charlotte Dornella, cette organisation de décrire quelqu'un comme mettant la terreur pour que tout le monde puisse avoir peur avant même qu'il n'arrive.
Oui, non, mais c'est vrai que là, si on refait le pour ceux qui n'ont pas écouté cet après-midi, même avec les extraits,
oui,
on comprend bien, même si on reprend les derniers extraits, il y a à la fois, en effet, la focalisation pour des raisons éditoriales, le fait de s'attacher à un groupe sans même savoir ce qu'il y a dedans, parce que l'exemple de Sophie Binet qui refuse de répondre à CNews en raison de Vincent Bolloré, mais qui a son livre au même endroit, c'est assez drôle. Donc maintenant qu'ils peuvent venir tester la terreur de Vincent Bolloré, et comme s'il y a bien un truc dans lequel je me retrouve, c'est la charité et l'espérance. Donc on va, un, leur pardonner, et deux, espérer qu'ils acceptent enfin de faire le débat là où c'est prévu qu'ils se tiennent.
Merci beaucoup à tous. La grande leçon pour moi, c'est ce monde, encore une fois, d'inversion de malheur. On dit qu'on a celui qui est coupable, en réalité est victime, et celui qui est victime, en réalité est coupable. Excellente suite de programme, l'heure des points 2.